Il y a un adage qui dit chanter, des fois, c'est comme si nous prions aussi. Et c'est vrai que il y a des cantiques qui nous permettent de prier dans le sens de nous confier au Dieu Sauveur, en Jésus-Christ. Je vous propose, avant de passer aux eaux du baptême avec Anne-Sophie, de faire un petit parcours dans la parole de Dieu. Nous permettre ce matin de réfléchir au sens de l'engagement dans la foi chrétienne. L'apôtre Paul, dans l'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, et on reviendra sur le texte, non, tu le laisses là, c'est très bien comme ça. Il dira, et je paraphrase, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est ce que Anne-Sophie a témoigné ce matin. Et le moyen par lequel cette faveur de Dieu vous sauve, c'est la foi avec laquelle vous y croyez. Finalement, si vous êtes sûr de votre salut, si vous êtes sûr d'un jour être dans la vie éternelle, être au paradis de Dieu, ce n'est pas parce que vous le méritiez, ce n'est pas parce que je le méritais. C'est Dieu qui, dans sa miséricorde, dans sa grâce, nous a offert une faveur. Une faveur que nous acceptons avec confiance. Être sûr de vivre avec Dieu, ce beau projet d'amour, ce beau projet de paix, être sûr de vivre ce projet éternellement auprès de Dieu, dans ce lieu qu'à peine nous pouvons imaginer, ne se mérite pas. Ce n'est pas nos œuvres qui nous donnent le salut, parce que nos œuvres, de toutes les façons, elles sont disqualifiées à cause simplement de nos pensées. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui, une fois de plus, prend l'initiative de cet amour. Dieu est le juste juge qui sait qu'aucun de nous ne peut satisfaire sa justice. Et du coup, parce qu'il nous aime, le premier livre de la Bible dit que Dieu nous a créés en son image. Nous sommes une créature merveilleuse, façonnée par le Dieu du ciel. Malheureusement, le péché nous a atteints. Nous avons été corrompus. Mais Dieu qui nous aime n'a de cesse mis des moyens pour rattraper, pour sauver, pour combler sa propre justice. Et c'est lui qui prend l'initiative, comme je vous l'ai dit. En Jésus-Christ, Jésus-Christ renferme tout ce que nous sommes de mal, parce qu'il accepte de le prendre sur lui, mais Jésus-Christ renferme tout ce que nous sommes de bien, parce que la Bible dit que c'est le deuxième. Après le premier Adam, c'est le deuxième qui rentre et qui refait tout à nouveau, comme le dit le chant. Une nouvelle vie, tout à nouveau. C'est le Christ qui le fait. C'est cette grâce que Dieu a offert à Anne-Sophie et à bien de nombreuses personnes dans cette salle, mais en dehors aussi. Le salut est offert gratuitement. C'est la grâce de Dieu qui l'offre. Et nous sommes invités à reconnaître ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs et à saisir la main de Dieu qui nous fait cette grâce et cette faveur. Une fois que nous sommes dans ce parcours de foi et que nous arrivons à l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, il est bon de savoir comment Dieu souhaite que nous vivions notre vie. Les habitudes du cœur. Dieu parle beaucoup au cœur. C'est pas cet organe qui est dans notre poitrine. Non, il s'agit pas de celui-là. Mais c'est une image. Le cœur est le centre. Dans la parole de Dieu, le cœur représente ce que l'être humain est de plus profond en lui. Certains disent, ça représente ce que nous sommes en tant qu'être spirituel, être corporel, être, comment dire? En fait, ça représente tout ce que nous sommes. Volonté, raison, émotion, tout ce que nous sommes. Et c'est ça que Dieu prend sur lui de nous accompagner à changer, enraciner et fonder dans l'amour de Dieu. Vas-y, Eric. Alors, il ne suffit pas de saisir intellectuellement les fondements de notre foi, même si cela est important. Il faut que cela aussi pénètre profondément notre cœur et commence à transformer toutes les facettes de notre vie. Nous devons saisir de plus en plus ce que fait le fait d'être un chrétien, un disciple veut dire réellement, et laisser peu à peu cette réalité teinter nos moindres désirs. Et justement, l'apôtre Paul en parle, la diapo d'après, s'il te plaît, dans l'épître aux Éphésiens. Le Christ qui habite en notre cœur. Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, donc à cause de l'amour de Dieu, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est une parole, comme les autres paroles de la parole de Dieu, de la Bible, c'est une parole forte que l'apôtre Paul donne pour fonder ce que Dieu attend, que le nouveau, celui qui se tourne vers lui, commence à être un être nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle. Peu importe l'âge, peu importe notre condition sociale, peu importe qui nous sommes des hommes et des femmes que Dieu cherche à transformer en bien. Quand il parle de ces quelques dimensions géométriques, regardons quelques significations de cela. Vas-y, s'il te plaît. Dans la longueur dont parle ce texte par rapport à la mort de Dieu, c'est l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Cette espérance qui est née bien avant la fondation du monde. Le plan de Dieu commence bien avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Dans l'éternité passée et qui s'étend jusqu'à l'infini que nous ne connaissons pas. L'amour de Dieu est si long. L'amour de Dieu est si long. La Bible dit que Dieu connaît chacun d'entre nous avant même que nous ne naissions. Avant même que le projet passe dans la tête de nos parents, Dieu nous connaissait. Un prophète l'a dit avec acuité, il dit « Alors que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. » Jésus dit que Dieu connaît le nombre de chaque brin de cheveux que chacun de nous porte. Pour préciser qu'il nous connaît intimement, Dieu nous connaît intimement. Cette longueur de son amour date et fera encore date. La largeur dont il parle, c'est la richesse insondable du Christ. Cette richesse prend tous les hommes, peu importe leur sexe, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur condition sociale, peu importe le lieu où ils habitent, Christ aime tous les hommes, sans exception. Il aime tous les hommes, toutes les femmes, peu importe leur âge. C'est un amour qui est tellement large. Regardez autour de vous ce matin. Si on tendait le micro pour dire nos origines, waouh, nous sommes de diverses origines ce matin. C'est une grâce de Dieu. Et nous sommes de diverses générations aussi. Cette hauteur dont parle cette parole, c'est la hauteur qui indique que nous sommes en Christ, ressuscités pour siéger ensemble avec lui dans le monde céleste. Jésus nous donne de prendre de la hauteur. C'est vrai, cette hauteur, elle est spirituelle, mais cette hauteur, elle est aussi par rapport au péché. Jésus donne la force à celui qui marche avec lui de se lever au-dessus du mal, de prendre de la hauteur par rapport au mal. Avant, nous n'avons pas forcément cette capacité de prendre la hauteur par rapport au mal. Parce que de toutes les façons, le mal que nous connaissions, c'est celui que notre société définissait. Et parfois, quand la société dit mal, Dieu dit bien. Quand la société dit bien, Dieu dit mal. Et nous sommes perdus. Comme des brebis errants, nous n'avions plus d'orientation. Et quand Jésus nous rattrape, il nous réoriente à nouveau, il nous montre les choses, il nous dit les choses, il nous permet de prendre la hauteur. Cette profondeur fait référence à la mort dans laquelle nous vivions et à laquelle Dieu nous a arrachés dans son appel. Profondeur, sépulture, nous descendons à la fin de nos vies. Ça dépend de la façon dont on va nous enterrer, mais de toutes les façons, nous sommes dans une profondeur. Et cette profondeur, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi il apparaîtra devant Dieu. Et la parole de Dieu dit, comment veux-tu te trouver devant Dieu? Dieu t'offre une grâce. Ne pas le dire, ça serait égoïste de notre part. Selon les Écritures, nous avons deux chemins. Le chemin de la vie éternelle et malheureusement, le chemin qui mène à la mort éternelle. Dieu est encore un Dieu de grâce qui ne veut pas juger. La Bible dit que Dieu est venu non pas d'abord pour juger, mais pour sauver. Et son salut est ouvert. Dieu est disponible, comme dit la publicité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Dieu est disponible. Dieu est disponible. Deuxièmement, Dieu nous invite à cultiver de saines habitudes dans nos vies personnelles, selon l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Le terme « cultiver » ici prend une dimension intentionnelle, une dimension régulière, une dimension d'implication. Le chrétien est invité dans cette nouvelle orientation à s'impliquer pour donner à Dieu la possibilité de lui montrer ce qu'il est de bien, ce qu'elle est de bien. Tout son potentiel, Dieu veut le développer. C'est avec le Christ que vous avez été réveillé de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses ou mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est d'une façon d'adorer de faux dieux. Voilà ce qui offre la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse. Elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, doux, patient, supporté. Vous les uns les autres. Et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien. L'amour est le lien qui unit parfaitement. L'amour est le lien qui unit parfaitement. C'est un petit mot qu'on emploie, je sais pas combien de fois, dans une vie. Et parfois on se demande, Et pourtant, on se réveille avec ce qu'on appelle des faits divers et on nous apprend qu'un homme qui aimait sa femme l'a tuée. Et ça nous interroge sur la qualité de l'amour de notre monde. On apprend que dans des familles, terreau de l'amour par excellence, les choses ne vont pas si bien que ça. Et pourtant, on parle d'amour. Dieu est celui qui veut réinvestir ce que lui, il a introduit dès le commencement, qu'il appelle amour. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. C'est ça que Dieu veut faire dans la vie d'un chrétien. Enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Troisièmement, vas-y, passe, s'il te plaît. Cultiver de saines habitudes dans son foyer. Il y aurait tant à dire sur cette question. Et Dieu a un projet. Le texte que je vous ai lu au départ dit que toutes les familles tirent la origine du Dieu des Lumières. Dieu est le créateur de la famille. Le foyer, c'est le projet de Dieu. Dieu y tient tellement. Dieu aimerait que les hommes, dans ce cocon familial, vivent quelque chose d'exceptionnel. Et pourtant, le mal étant rentré en nous, ce n'est pas toujours le cas. Nos foyers ne sont pas toujours un havre de paix. Nos familles ne sont pas toujours un cocon douillet à cause du mal. Et c'est ça que Dieu veut changer. quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, c'est cette... Ah, comment dire? Vas-y, s'il te plaît. Les principes fondamentaux de la foi exigent une vie disciplinée à tous les niveaux. Un de ces aspects concerne la vie familiale. Souvent, les gens voient la foi comme une question personnelle et ils négligent de l'intégrer pleinement à leur vie familiale. Et Dieu en parle tellement. Et parfois, Dieu prend l'image de la famille pour parler de sa relation aux hommes. L'amour est une responsabilité affectueuse. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et comme il aime son propre corps. Les commandements de respect, je l'ai mis en parenthèse parce que c'est un mot qui fait bondir les cheveux. Le commandement de se soumettre est une application particulière d'un devoir général du chrétien. Ce texte cité dit dès le départ, soumettez-vous les uns aux autres. Et les deux facettes de la soumission dans l'amour conjugal se déclinent par l'amour du mari pour sa femme et le respect de la femme pour son mari. L'épouse respecte un mari qui l'aime et non pas un mari qui la domine. C'est Dieu qui le dit. Jésus-Christ est le chef de l'Église, mais il n'est pas dominateur, il n'est pas dictateur. La preuve, c'est que chacun est libre de le choisir ou de le refuser, n'est-ce pas? Et c'est ce modèle que Dieu veut qu'il y ait dans la famille. La famille aussi est invitée à cette relation avec les enfants. Nous insisterons sur le fait d'instruire nos enfants, de les entraîner à la vie avec amour. Il ne s'agit pas exclusivement d'une connaissance théorique ou d'une compréhension intellectuelle. Habituer à agir d'une certaine façon, c'est de ça qu'il s'agit. Éduquer, instruire, enseigner, c'est habituer nos enfants à agir d'une certaine façon selon le bien que Dieu définit dans l'Écriture. C'est le formateur, le parent qui est responsable de ce que cette personne va devenir au bout du compte. Il la forme en tant que personne. Ils vont sortir une publicité bientôt pour lutter contre la violence faite aux enfants. Vous savez que déjà les châtiments corporels sont interdits dans l'Union européenne. On va savoir pourquoi. Mais en tout cas, les enquêtes qu'ils ont faites par rapport au châtiment corporel étaient hallucinantes. Certaines familles n'ont que comme articulation les châtiments corporels pour éduquer les enfants. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas un père fouettard. Comment nous, parents, pourrons-nous être des pères fouettards ou des mamans fouettards? Dieu est un éducateur, est un pédagogue. Ils vont sortir cette loi, ils vont faire une publicité qui va, enfin, l'un des spots, un enfant qui gribouille le mur avec un marqueur indélébile et son père commence à vouloir déchaîner cette violence verbale comme on sait se faire souvent sur l'enfant. Et puis du coup, l'enfant lui apparaît comme un adulte. Et là, il se retient, il commence à dialoguer avec son fils. Tu sais, un marqueur, c'est pas fait pour le mur. Des fois, si nous écoutons Dieu, nous sommes aussi invités à être des parents avec des outils que Dieu nous donne, des outils d'amour, pédagogiques, et pas juste des parents. Et ce texte que je vous ai laissé dit justement, parents, n'irritez pas vos enfants, ne les exacerbez pas, mais éduquez-les selon la volonté de Dieu, avec amour. Oui, dans l'éducation, il y a la correction, bien sûr. Mais de quelle correction parlons-nous, là aussi? Vas-y, s'il te plaît. Avant-dernier point, cultiver les saines habitudes dans la famille de l'Église. L'Église n'est pas une option. Quand on est chrétien, on ne peut pas... Je suis peut-être de la vieille école, je sais pas, mais... Les dimanches matin, l'Église, pour moi, ça fait partie de ma vie hebdomadaire. Ça fait partie de la vie de ma famille. Quand Dieu donne le souffle à nous parents de nous lever, de vaquer à nos occupations en semaine, aller au travail, accompagner les enfants à l'école, parce que nous savons qu'il y a du bien dans ça. Aller au travail, c'est avoir sa pitance quotidienne, c'est aussi se développer humainement. Envoyer nos enfants, conduire nos enfants à l'école, cela permet d'avoir une éducation, d'avoir une instruction, surtout que nous avons vraiment ce privilège dans ce pays de ne rien payer, en tout cas jusqu'à un certain niveau, et que même l'État nous dit « tu ne dois pas laisser ton enfant à la maison », nous faisons toutes ces activités, parfois, oui, avec de la fatigue. Le lundi matin, ce n'est pas le jour idéal, mais quand même, on y va, parce que nous connaissons tous l'importance d'y aller, n'est-ce pas? Et pourtant, pour notre éternité, on choisit de dire « oh, ce dimanche, je suis fatigué, je ne vais pas aller. » Ah là là. L'Église, vas-y s'il te plaît. Pourquoi est-ce si important de se réunir régulièrement? Vous avez quelques motifs là que je vous donne. Le fait que nous ayons choisi de croire et d'être baptisés, Anne-Sophie en l'occurrence aujourd'hui, implique que nous serons soumis immanquablement à une pression quelconque d'abandonner la foi. Nous vivons dans une société qui n'est pas toujours favorable à la foi chrétienne. Nous ne nous en plaignons pas en tant que ça, mais pour ne pas ignorer que des fois, si nous sommes tous seuls, nous prenons le risque de nous éloigner bien vite. C'est donc que nous avons besoin de ce rassemblement. C'est comme ça que Dieu, que Christ l'a conçu, pour que dans ce rassemblement, il y ait une ferveur, que nous soyons toujours exposés à cette proclamation de l'Évangile, que nous soyons toujours encouragés, comme Anne-Sophie l'a dit dans son témoignage, par les frères, par les sœurs, que nous puissions ensemble démontrer cette vie d'amour, nous encourager, nous soutenir, comme le texte que j'ai lu tout à l'heure, pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient, être là dans une communauté d'amour, nous faire du bien, nous porter, entendre l'Évangile, apprendre ensemble à grandir dans la foi, et puis ensuite à manifester cet amour pour que les autres aussi que nous aimons puissent le voir et être invités à faire des marches comme nous. Le croyant était appelé à s'impliquer dans cette rencontre de manière que cela devienne une habitude du cœur. Un missionnaire a dit, dans une ville, si on veut du pain, on va chez le boulanger. Si on était malade et qu'on a une ordonnance, on va à la pharmacie. Et en général, quand on cherche à se loger, on cherche un appartement pas loin de ce genre de commodité, n'est-ce pas? Mais il dit, quand les gens cherchent Dieu, où iront-ils? Il dit, s'il n'y a pas d'église, où iront-ils? Et donc l'église est là dans une ville pour donner cette opportunité à tous ceux qui cherchent Dieu, à tous ceux qui veulent entendre parler de l'amour de Dieu, de venir dans cette communauté. Et nous sommes heureux que le témoignage d'Anne-Sophie dise une fois de plus la réalité de cela. Nous ne la connaissions pas il y a un an et demi, Anne-Sophie. Nous l'avons vu débarquer un matin dans cette communauté. Et nous avons été touchés par une jeune femme arrivée, volontaire. Je peux vous aider? Je dis, mais c'est qui celle-là? Bien vivante. Et puis nous avons appris à la connaître, à cheminer avec elle. Et elle a dit ce qu'elle vous a dit ce matin. C'est dans son intimité de lecture de la parole que la conviction est venue de trouver une église. Heureusement que nous étions sur le chemin d'Anne-Sophie. Comme aussi, certaines églises ont été sur notre chemin. Moi, je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il y a une église sur mon chemin quand j'étais étudiant. Et aujourd'hui, je suis là, c'est parce qu'il y a eu cette église-là aussi. L'église n'est pas une option. Elle est dans le plan de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Et je termine. Notre foi ne se limite pas à la sphère de la communauté chrétienne. Notre foi ne se limite pas à la sphère de notre famille. Notre foi ne se limite pas qu'à nous. Elle a des ramifications là où nous vivons, notamment au travail aussi. Travail ici, prenez travail comme tous les lieux où vous allez, qui ne sont pas des lieux intimistes, qui ne sont pas la famille, qui ne sont pas l'église locale, qui ne sont pas vous-même, mais qui sont autres que vous-même. Et Dieu nous invite aussi, dans ces endroits-là, à cultiver de saines habitudes. Regardez, c'est un monde anxiogène. On est stressé parce que depuis quelques années, on ne sait pas ce qui nous attend quand nous sortons dans la rue. Pour des pécadilles, les gens se prennent la tête facilement dans le métro, dans la rue. Hier, dans un rond-point, un chauffeur de gros camion qui avait du mal à faire sa manœuvre, un utilitaire derrière lui, pap, c'est parti tout de suite en violence. Avec les mots que vous savez. J'ai dit, tôt le matin, il était 7 heures du matin. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Alors si le chrétien peut être un artisan de paix, si la chrétienne peut être quelqu'un ou quelqu'une qui est transformée et qui peut apporter sa contribution en tant que sel et lumière, en tant qu'artisan de paix, quelle respiration pour notre société? Quelle respiration pour notre société? Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites d'ailleurs à l'égard de tous les frères dans la Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères, à faire encore de nouveau progrès. Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous l'avons ordonné, pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors et que vous n'ayez pas besoin, que vous n'ayez besoin de personne. C'est une invitation à travailler, à s'autosuffire. Et le texte est plus long que ça, pour qu'en étant autosuffisant, que nous puissions apporter aussi une contribution dans la société, une contribution aux autres qui sont parfois dans le besoin. La charité chrétienne. Le travail est une valeur qui valorise la personne, mais le travail est une valeur qui aide la personne à manifester aussi de la charité chrétienne. Quand il y a les besoins, et les besoins, il y en a toujours. Et enfin, à la fin de cette invitation, je vous propose quelques questions. Si du reste mon discours a eu quelques échos auprès de vous, est-ce que ça a suscité quelques convictions? En tout cas, Anne-Sophie, cette conviction a été travaillée en elle. Elle a fait son parcours. Elle a été accompagnée. Aujourd'hui, elle va passer par les autres baptêmes parce que cette conviction, elle est mature aujourd'hui. On est passé en mode veille? Non, c'est bon. Quelle transformation Dieu peut-il opérer dans votre vie par rapport à ces 5 points que Dieu éclaire? On a des besoins. J'en ai exposé 5, il y en a bien d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé, qui vous a parlé, pardon? Y a-t-il des points que vous auriez aimé développer davantage? Bah, laissez Dieu vous aider à le faire. Qu'est-ce qui vous a plus interpellé? J'ose poser cette question. Est-ce que vous avez été interpellé? J'en sais rien, mais ça serait bien quand même. Quelles convictions avez-vous tirées? Qu'est-ce qui vous a le plus réjoui? En quoi votre vision de la vie a-t-elle été impactée? En tout cas, celle d'entre nous, en tout cas notre vision à nous et celle d'Anne-Sophie, comme elle a partagé ce matin, et non les arguments pourraient être aussi repris par plusieurs d'entre nous qui sont devenus croyants. Oui, nous avons répondu à quelques-unes de ces questions-là. Notre vision de la vie a été impactée par l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que nous voulons laisser comme notre guide, notre conduite. Et c'est pourquoi je vais inviter Anne-Sophie maintenant. Nous allons passer à cette étape parce qu'elle, elle a réfléchi à ces questions. Elle s'est laissée conduire et nous allons l'inviter. Et cette invitation, d'autant plus que nous sommes dans un temps particulier, n'est-ce pas? C'est un week-end de la Toussaint, où nous nous rappelons ceux qui nous ont quittés. Nous qui avons perdu des êtres chers, c'est toujours une séparation difficile et douloureuse. Leurs souvenirs nous manquent, mais nous qui sommes chrétiens, ce que nous espérons le plus profond au fond de nous, c'est que les êtres chers que nous aimons aient fait la paix avec Dieu et qu'ils soient au paradis. Et c'est cette démarche qui commence avec celle que vous allez entendre tout à l'heure, qui est le commencement. Accepter Dieu, témoigner de sa foi, passer par les eaux du baptême et continuer de cultiver, comme je vous l'ai dit en tout cas, ces 5 points. Je vais inviter Anne-Sophie à me rejoindre.